Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme, je vous parle en ce 6 mars, date limite des transactions qui vient tout juste de passer. La cloche qui vient de se faire entendre, vraiment, ça fait environ une heure là, que cette date limite-là est due passer. Il y a encore quelques transactions qui sont en train de rentrer, donc on va parler de tout ça aujourd'hui à l'émission avec mes deux collègues habituels. Salut Guillaume Lepage, comment tu vas?
Ça va très bien toi, Nick.
Ça va très bien aussi. Et Jean-François Saumon, salut GF.
Salut Nick, salut Guillaume. Mais c'est une cloche qui a sonné longtemps dans le camp du Canadien. Ça a été long avant que la cloche finisse de résonner. Mais finalement, c'était une fausse alarme. Donc, ouais. Rien du tout dans l'univers CH.
Écoutez, je vais être franc, je m'attendais pas à une grande journée à travers la Ligue, que des gros noms changent d'adresse. C'est pas mal ça que ça a été. Et soyons francs, ça a été long avant que ça se mette en marche. Là. Jusqu'à 2 h de l'après-midi, là, c'était pas mal long. Il y avait quelques transactions la veille, comme c'est parfois le cas, mais c'était assez long. Merci. On va faire le tour de ça. On va parler, oui, de ce qui s'est passé ou pas passé chez les Canadiens. On va parler aussi de l'Avalanche du Colorado qui a fait l'acquisition de Nazem Kadri. Puis on va faire un peu le tour. On va parler des transactions qu'on a aimées, les équipes qui n'ont pas bougé et tout ça. Alors, chers auditeurs, je vous invite, si vous nous écoutez sur le site de LNH.com, ben sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes de balado à peu près qui peuvent exister. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Et si vous voulez nous regarder sur vidéo, ben maintenant, c'est sur Spotify qu'on se retrouve en vidéo. Donc, vous pouvez nous voir discuter de tout ça, discuter de votre sport favori. Les gars, on se lance, les Canadiens. Il y avait eu quelques transactions. Philippe Dano, Alexandre Texier aussi, qui s'était ajouté au fil du temps. Vous interprétez ça comment présentement, alors que la date limite est passée depuis une heure là, environ, là, le fait que les Canadiens n'ont pas bougé? Puis ce qu'on a dit dans la conférence de presse, ce que Kent Hughes a dit dans la conférence de presse après lorsqu'il a rencontré les médias, là, justement, après la date limite.
Il y a eu Noah Dobson aussi au cours de l'été, contre 2 choix de premier tour et Emil Lineman. Comment l'interpréter? Je pense que Kent Hughes, Jeff Gorton ont conservé leur philosophie d'être patient, de ne pas vouloir trop bousculer les plans. Mais Kent Hughes, lors de son point de presse avec les journalistes sur place du côté d'Anaheim, disait qu'ils ont travaillé aujourd'hui sur un dossier, n'ont pas été en mesure de conclure cette transaction, mais qu'on pourrait se reparler à l'été. Je ne suis pas Sherlock Holmes, mais si on peut se reparler à l'été, ça veut dire que c'est un joueur qui a un contrat pour quelques saisons. On ne va pas se mettre à spéculer sur un paquet de noms, mais c'est possible qu'on revienne à la table à dessin. Et Kent Hughes, Jeff Gorton, ça reste aussi leur stratégie. Ils bougent généralement en marge du repêchage. On peut penser à Noah Dobson, on peut penser à Alex Newhook, la transaction pour Kirby Dack. Donc, c'est possible qu'on y aille d'une même tentative dans quelques mois. Mais visiblement aussi, il faut comprendre que le prix à payer sur le marché des transactions cette année était excessivement élevé. Je lisais des commentaires de Bill Guérin du côté du Minnesota. On lui a posé la question, les collègues du Minnesota, pourquoi tu n'as pas été chercher un joueur de centre? C'est quand même une faiblesse chez le Wild. Puis Guérin a tout simplement répondu que le prix était astronomique, donc il ne voyait pas possibilité de le faire. Probablement que ça a été le même enjeu du côté du CH.
Puis justement, tu parles des prix, mais aussi quand on regarde le classement présentement, oui, les Canadiens sont pas assurés d'être des séries éliminatoires, mais on est dans une position où on a ce coussin-là qui est quand même confortable, qui fait, écoutez, on ne vise pas la Coupe cette année.
Un petit coussin.
T'as le confort facile, Nick.
Ouais, écoute, on a présentement 3 points d'avance sur les Blue Jackets avec un match en main. C'est presque fait, dans le fond. Non, mais je veux dire, le tricolore joue somme toute bien. On n'aura visiblement pas le bris d'égalité si ça devait se déterminer à égalité parce qu'on a tellement de victoires. Mais il y a tellement d'équipes que je trouve que ce coussin-là de 3 points, possiblement 5 si on gagne ce soir à Nîmes, je trouve quand même pas. Dans le fond, ce que je veux dire, c'est est-ce que vous sentiez que les Canadiens, c'était un must de bouger cette année?
Ben, un must peut-être pas, mais on revient au discours qu'on a depuis un mois maintenant, la première fois qu'on a abordé là, la date limite qui s'en venait, puis on disait ça prend des renforts au niveau de la ligne bleue, ça prend des renforts peut-être sur le top 6, aller chercher quelqu'un qui est capable de compléter. Tu sais, on voit là, Martin Saint-Louis dernièrement se met à rejongler avec ses deux premiers trios parce que ça ne fonctionne pas aussi bien qu'il y a quelques semaines, quelques mois. Là, on est encore au même point, tu sais, la défensive, j'aime beaucoup la phrase que JF a dit au départ il y a quelques semaines. Tu es à un blessé en défensive d'avoir à faire confiance à Herbert Jacquet et Jaden Struble dans le même match pour X nombre de temps. Pour moi, c'est une situation qui est très, très, très précaire. Surtout de la façon dont les gardiens se débrouillent devant le filet. C'est pas nécessairement le duo le plus rassurant de la ligue. Là, tu as une défensive qui est correcte, qui connaît des ratés quand même. Puis, on n'a pas beaucoup de profondeur. Donc, je dirais pas que c'était un must, mais je trouve qu'on joue peut-être un peu avec le feu du côté du Canadien, surtout compte tenu que les rivaux directs de section ont tous bougé, sont tous à peu près améliorés à cette date limite des transactions-là. Donc, je dis pas, entre un coup de circuit et un peu de profondeur de l'expérience et tout ça, il y a quand même une marge. J'aurais aimé voir le Canadien faire quelques acquisitions, là, justement, pour améliorer cette profondeur-là, surtout en défensive. Un défenseur numéro 5-6, ça aurait fait mon bonheur aujourd'hui, puis c'est pas arrivé. Donc, je suis un peu plus inquiet pour la fin de la saison que tu peux l'être, Nick. J'ai quand même quelques réserves.
Mais moi, je retrouve aussi Guillaume dans son argumentaire. T'sais, marquer des buts, c'est pas le problème du Canadien, mais c'est donc bien plus sexy quand tu parles d'un Robert Thomas, quand tu parles d'un attaquant offensif de 70-80 points, que de parler d'un défenseur qui joue en désavantage numérique puis qui mange des minutes importantes en fin de rencontre. Le Canadien est quatrième dans la Ligue pour les buts marqués, mais ils ont le neuvième pire rendement pour les buts accordés. Donc, c'est pas compliqué à comprendre que le bobo, oui, t'as un manque de constance de la part de tes deux gardiens, autant Jakub Dobesch que Samuel Montembeau. Mais peut-être aussi que devant Dobesch et Montembeau, c'est pas numéro un non plus. Peut-être que tu as besoin de mieux encadrer tes deux gardiens. Le Canadien vient au 24e rang avec 196 buts accordés depuis le début de la saison. Oui, ils en ont marqué 211, mais défensivement, c'est peut-être là que ça cloche un petit peu. Puis si tu regardes dans l'association de l'Est, tu parlais d'un coussin, mais les Blue Jackets de Columbus ne perdent pas beaucoup de matchs depuis plusieurs semaines depuis l'arrivée de Rick Bowness. Donc, peut-être le coussin va commencer à diminuer. Tu regardes en haut du CH, les Sabres ont bougé, les Red Wings ont bougé, le Lightning a bougé. Donc, ils ont été agressifs. Tu regardes dans l'autre division, les Islanders ont bougé plusieurs fois. Mathieu Darche, aujourd'hui, est un des grands danseurs de cette dernière journée. Donc, le CH reste prudent, mais ça revient aussi, tu sais, on le dit depuis longtemps, l'objectif est de construire une bonne équipe à long terme, d'être compétitif pour plusieurs saisons, mais je ne crois pas qu'aux yeux de Kent Hughes, de Jeff Gorton, pouvoir gagner la Coupe Stanley, c'est dès ce printemps. C'est peut-être une des raisons pourquoi on reste prudent, puis on ne veut pas non plus sacrifier trop d'espoir. Tu sais, Michael Age, Alexander Zarowski, Jacob Fowler, David Reinbacher, les choix de premier tour, on n'a pas sacrifié d'avenir pour l'instant.
Non, je comprends le point par rapport à long terme, mais est-ce que à la fin de la saison, si le Canadien rate les séries, est-ce qu'on va,
il va y avoir
parler de progression? Est-ce qu'on va parler? Tu sais, c'est ça aussi, moi, dans mon esprit, si on veut assurer une progression de cette équipe-là, je pense qu'elle avait besoin d'un petit coup de pouce aujourd'hui, à la date limite des transactions, pour parvenir justement à dire « Hey, écoutez, on a fait les séries l'an dernier, on les refait cette année, avec peut-être l'espoir de faire un petit bout de chemin de plus que l'an dernier. » Là, on fait confiance au même groupe. Moi, je me demande aussi, tu sais, je sais que le groupe, puis Kent Hughes en parlait, le groupe est très, très uni, très serré, puis on voulait pas voir personne partir et devoir dire adieu à des coéquipiers, tout ça, mais le message, est-ce qu'il y en a dans cette chambre-là qui s'attendait à recevoir des renforts? Là, t'sais? L'an dernier, c'était « Hey, les gars, vous êtes placés dans une position où je peux dire let's go, je vends personne, je garde la formation intacte pour vous permettre de faire de vous rendre jusqu'en série. Là, cette année, le message que ça envoie, c'est... Tu sais, je pense pas qu'on peut avoir le même discours du côté de Kent Hughes, du genre « Allez-y, j'ai confiance en vous. » Tu sais, on est rendu un petit peu plus loin dans le processus de la reconstruction. Selon moi, ça aurait pris une petite transaction, justement, de profondeur, un bon défenseur plate, là, comme on avait dit la semaine dernière dans le podcast. C'était ça dont le Canadien avait besoin. Puis cette inquiétude-là reste toujours là pour ma part.
Mais... vous avez raison qu'en avant, ça s'est amélioré. Mais derrière, les Sénateurs, bon, on a échangé David Perron, Warren Fogle, OK. Les Capitals, on a échangé John Carson. Les Flyers, on n'a pas bougé. Puis après ça, c'est les Maple Leafs, c'est Devils, c'est terminé. Derrière, il n'y a pas vraiment eu de mouvement. On a adopté, les Bruins aussi, ça n'a pas vraiment bougé. On a adopté la même philosophie que les Canadiens, donc... oui, à moins que les Blue Jackets et les Sénateurs connaissent des fins de saison incroyables. Bon, les Blue Jackets, là, je pense que depuis l'arrivée de Rick Bonus, ça va super bien. Est-ce que ça va se poursuivre? Je ne sais pas. Mais le message est clair. Il va falloir que l'effort vienne de l'interne et non pas de l'externe. C'est le message qui avait été envoyé aux troupes l'année dernière à la date limite. C'est le même message cette année. Tu sais, je vois ça un peu comme une continuité dans le sens de, ben écoutez, on vous a fait confiance l'année dernière, on vous refait confiance cette année aussi. Nos gardiens, Montembeau, est capable de se relancer, visiblement. Jack Hyde, est-ce que c'est un club qui peut aller loin en séries éliminatoires? Je pense pas. Mais est-ce que c'est un club qui est exactement où on s'attend qu'il soit? Peut-être même en avance dans la reconstruction. Yann est là aussi. Donc, tu sais, à quel point tu te mets à sortir des éléments? Est-ce que l'ajout d'un Michael Hage éventuellement dans la saison, fin de saison, est-ce qu'un rappel d'un Ryan Backer, c'est des possibilités selon vous pour justement être ces petites étincelles-là qui vont permettre de justement profiter de ce beau coussin-là que je parlais un petit peu plus tôt?
Ben Michael Hage pourrait apporter un souffle différent, mais ça va rester un jeune joueur de 19/20 ans sans aucune expérience du côté de la Ligue nationale. Oui, l'an dernier, Ivan Demidov avait eu un impact dès le jour 1, mais est-ce que Michael Hage peut recréer le même dynamisme offensif que Ivan Demidov? On attendra. Moi, je pense que si tu places dans les souliers de Gorton et Hughes, eux, ils vont dire aussi qu'ils ont eu du renfort avec l'infirmerie qui se vide. T'as Alex Newhook qui est revenu au jeu, t'as Kirby Dack qui est de retour en santé depuis déjà quelques semaines. Newhook peut être une carte offensive où tu le places sur quelques trios puis peut donner un coup de main, mais Newhook, ça reste le même joueur qui patine, qui obtient des chances, mais qui finit pas toujours toutes les occasions. Ils ont voulu faire confiance au noyau actuel. C'est vrai qu'il y a des équipes derrière qui ont choisi de vendre, mais ça reste que les Blue Jackets sont dans la course, les Bruins de Boston sont toujours dans la course. Et puis, si tu voulais gratter puis essayer de passer le premier tour, ce qui aurait pu être un objectif réaliste cette saison, tu veux toujours t'améliorer. Mais là, cette année, au premier tour, mais tu peux avoir les Sabres de Buffalo dans tes pattes ou le Lightning de Tampa Bay ou les Hurricanes de la Caroline, dépendamment de ta position au classement. Ça reste une très, très grosse bouchée à prendre pour une équipe qui n'a pas obtenu de renfort, surtout sur le plan défensif. Tu sais, il y a beaucoup de si dans ta phrase, là, Nick. Si Montembeau se replace, si Dobesch
Dobesch. Toutes ces équipes-là,
c'est parce
cette année,
qu'on on a parfois c'est... aussi, tu sais, on garde le nez trop près de la vitre, là, puis moi, c'est j'en ai un bon nez. Là. On dirait que le dernier match contre les Sharks fait paniquer tout le monde.
Toi, c'est une
B-window
hein, pour ne pas toucher. Ouais, là, mais, faut vraiment qu'elle
parce que
trouver,
ça finit 7-5 du côté de San Jose, mais tu sais, dans une saison, ça va arriver qu'une bonne équipe va avoir une varlope ou t'en donnes 7 puis 8. Je pense pas que c'est ce match-là qui fait tout dérailler le système, mais un défenseur, un sixième défenseur qui a été une amélioration par rapport à Harbour, Jacky et Jaden Struble, moi, c'est vraiment là que j'aurais ciblé mes énergies.
C'est surtout en termes de... Tu sais, quand tu regardes les lacunes de cette équipe-là, c'est de fermer les livres dans un match quand elle avance, de bien jouer défensivement. Puis tu sais, on regarde le dernier match, on revient d'un retard de 3 buts. On donne encore un but en milieu de troisième période. Donc, tu sais, le petit ajout du défenseur fiable, c'est là qui fait toute la différence. Je regarde, tu sais, c'est certain, les prix, JF t'en a parlé d'entrée de jeu, là, les prix étaient assez élevés. Là, tu regardes la transaction des Sabres de Buffalo pour Logan Stanley et Luke Shen. Mm-hmm. On a quand même sacrifié Isaac Rosen, qui est un bon espoir du côté de Buffalo. On a donné un deuxième et un quatrième. C'est cher payé pour ce que ces joueurs-là vont t'amener, mais c'est quand même de la belle profondeur avant en série. Tu sais, je regarde le côté, je regarde ce que les Sabres reçoivent dans cette transaction-là, je suis comme, c'est parfait. T'sais, c'est un peu ce que le Canadien aurait pu espérer obtenir aujourd'hui. Puis là, tu regardes le revers de la médaille, ce que ça a coûté, ben là, c'est un petit peu moins attrayant, mais c'est ça. C'est tout une question de jugement. Où t'en es rendu dans ton processus de reconstruction? Comment tu évalues ton équipe et tout ça? Le Canadien a décidé que cette année, on y allait avec le noyau qui a bien fait depuis le début de la saison. Ça pourrait continuer, ça pourrait dérailler, mais on verra bien ce que l'avenir réserve à ce club-là.
Parlons-en des Sabres, justement. Tu parlais des acquisitions. Je regardais la défensive. Là, si on enlève Michael Kesselring, là, t'as un Samuel, sont tous 6 pieds 2 et plus, jusqu'à 6 pieds 7 dans le cas de Logan Stanley. Parce que c'est un 6 pieds 1 à Bowen Byram, mais c'est tous ou à peu près des gros bonhommes. Mais la philosophie n'est pas pareille. Les Sabres, on est all-in pour faire les séries. Cette année, on a vendu le club en se disant faut absolument... Tu sais, je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps... Les Sabres, c'était une équipe qui était pas loin de la dernière place dans la Ligue nationale de hockey. C'est une équipe, on parlait de reconstruction, il va falloir amener des nouveaux jeunes. Tu sais, eux aussi, ça peut un peu prendre le bord. Et on avait, quand je dis qu'on est all-in, on espérait avoir fait l'acquisition de Colton Parayko. Finalement, selon ce qu'on a entendu, Parayko n'a pas levé sa clause de non-échange. Ce qui, c'est pas facile, hein, être un fan des Sabres de Buffalo ou des Bills aussi, soyons francs. Même quand ton équipe, ça va bien, il y a tout le temps quelqu'un pour te ramener sur terre et te dire non, ça ira pas jusqu'au bout. Même au Super Bowl 4 fois de suite. Mais c'est ça, les Sabres, on a fait des acquisitions en se disant faut absolument faire les séries éliminatoires. Tandis que les Canadiens, on n'en est pas là. Je pense
qu'ils ont de plus grandes visées que juste participer maintenant aux séries éliminatoires. Ils viennent de s'allumer à la ligne bleue. Je comprends ton point, Nick. Les Sabres n'ont pas participé aux séries depuis... C'est quoi? C'est 2010, 2011?
2000, ça fait comme 15 ans. Là. C'est
donc, 2011, dernier printemps. Rasmus Dahlin est dans la Ligue nationale depuis combien d'années? Rasmus Dahlin n'a jamais posé les pieds une seule fois pour un match en séries éliminatoires. Même chose pour plusieurs joueurs des Sabres de Buffalo. Mais là, tu regardes cette unité de défenseurs-là avec Dahlin, avec Samuelson, avec Bowen Byram. Là, t'ajoutes Logan Stanley, qui n'est pas un petit bonhomme. T'ajoutes Luke Shen, qui est un gars de mise en échec, qui est un gars de caractère. Ils ont déjà une bonne offensive. Pas les gardiens, les plus grands noms, mais Alex Lyon, puis Ukko Pekka Luukkonen font quand même le travail. Donc, Buffalo peut rêver à peut-être déloger à être l'équipe Cendrillon de l'Association de l'Est. Alex Tuck, Josh Stone, ils ont du talent offensif. Donc, j'aime quand même, il faut saluer le travail là, de Jarmo Kekäläinen. C'est quand même pas facile pour lui où tu travailles une transaction, techniquement tu crois faire l'acquisition de Colton Parayko. Tout le monde sait que tu donnes un choix de premier tour et Radim Marka, le défenseur qui avait été repêché 9e au total, un grand défenseur aussi défensif, un peu dans le moule de Parayko. Puis Parayko, ben lui, il a simplement exercé son droit de dire non, moi j'ai une clause dans mon contrat, je veux pas partir du côté de Buffalo. Et le lendemain, il réussit à trouver une solution, va chercher deux défenseurs plutôt qu'un. Je crois pas que Logan Stanley a le talent d'un Colton Parayko, mais Logan Stanley coûte quand même moins cher. Il est grand, il est gros, il frappe. Donc,
puis cette année, il y a vraiment une bonne saison.
Oui, il y a une bonne saison. Là, c'est une saison d'éclosion du côté de Winnipeg pour Logan Stanley. Donc, c'est tourner une mauvaise nouvelle en quand même une bonne nouvelle. Il a travaillé très, très fort, Jarmo Kekäläinen. Donc, c'est qui le défenseur qui me manque dans le top 4? C'est Owen Power que j'oubliais dans le top 4 des Sabres. Donc, tu sais, Owen Power, c'est un premier choix au total. Cette équipe-là, je ne veux pas croiser les Sabres de Buffalo au premier tour des séries. Ça pourrait être le scénario pour le CH dès le premier tour.
Ouais. Mais le petit bémol que j'aurais du côté des Sabres, puis t'en as glissé un mot.
Aucune expérience.
Cette équipe-là n'a pas fait les... Exactement. On dit souvent, une équipe doit perdre avant de gagner.
Ouais.
là, on y va en ligne. Puis oui, c'est vrai que. Puis là, on a commencé à avoir le discours aussi dans le vestiaire des Sabres. Je pense que c'était Alex Tuck qui disait on vise pas plus juste les séries maintenant. Là, on y va pour la Coupe Stanley. Puis on est une équipe qui peut se rendre là. Le gros bémol que j'ai, moi, c'est que c'est ça, il manque beaucoup d'expérience dans cette équipe-là. Il y a quand même beaucoup de jeunes. Là, c'est une grosse bouchée là, de premièrement, participer aux séries. Puis là, est-ce que cette équipe-là va réagir en se disant « Hey, on a réussi à faire les séries, finalement. » Puis tu sais, ça va dégonfler un peu la ballonne une fois rendu en série. Il y a plein de facteurs externes. Puis la différence avec le cas du Canadien, c'est que les Sabres sont à l'an 12 de la reconstruction, à peu près. Fait qu'il est temps qu'il se passe quelque chose. Fait que je comprends la position de Jarmo Kekalainen de se dire « Hey, on est finalement dans une bonne position à la date limite des transactions, pourquoi pas ajouter des bons morceaux à cette équipe-là. »
Ouais, cette équipe-là, le vent a tellement tourné depuis que Kekalainen au complet est arrivé. Là, c'est vraiment là que ça a commencé. Faut voir. Je pense qu'effectivement, les Sabres, ça regarde bien. T'sais, les Red Wings ont été chercher Justin Falk. C'est peut-être le type d'acquisition qu'on aurait aimé du côté des Canadiens, mais ça a coûté un choix de première ronde, un choix de troisième ronde des Sharks. Donc, c'est quand même un bon choix de troisième ronde. Je comprends. Je comprends le tricolore de ne pas avoir bougé aujourd'hui.
Ouais, on parlait d'une équipe. Défenseur droitier, une trentaine de points cette année, qui a de l'expérience. Je peux. Puis c'est une autre équipe.
Ben, honnêtement, je trouve.
Les Wings voulaient Tyler Myers, n'ont pas réussi à obtenir Tyler Myers. On a un plan B avec Justin Falk, qui est un défenseur autant offensif que défensif. Mais oui, le prix à payer était élevé. Il fallait que tu sois prêt à sacrifier un choix de premier tour. Puis Nick, je viens de voir aussi le prix que l'Avalanche a finalement déboursé pour attirer Nazem Kadri.
Parlons-en.
C'est quoi? C'est un choix de premier tour, un espoir.
Veux-tu te dire, j'allais devant
Max,
moi. Là,
Max Corrin, un choix de premier tour en 2028, choix de deuxième tour en 2027. Et Victor Olofsson, mais surtout l'information cruciale, les Flames vont retenir 20 % du salaire de Nazem Kadri. Donc, le 7 millions devient soudainement 5,6 millions pour Kadri pour cette saison. Et quoi, les trois prochaines saisons pour Nazem Kadri qui a 35 ans. Donc, si ça, c'était le prix pour Nazem Kadri, essayez d'imaginer le prix pour Robert Thomas. Donc, c'était quand même élevé.
Puis il faut dire aussi que, un peu comme les autres échanges où tu as une clause de non-échange, Kadri avait le gros bout du bâton. J'ai écouté son entrevue tantôt, puis il a dit, c'était pas mal l'Avalanche ou rien. Il retourne au Colorado. Puis souvenez-vous, c'est le joueur qui avait pas eu la chance de vivre les succès de l'Avalanche. T'sais, il avait été échangé au... C'était à Toronto? Toronto, ensuite, a été échangé à Calgary.
Non, il a gagné du côté de...
Gagnant 2022.
Ouais,
je me mélange, là. Ou c'était Tyson? Ah, c'est Tyson Barry que je pense. C'est l'autre qui avait été échangé, puis je suis en train de me mélanger.
Non, Nazem est un gagnant de la Coupe Stanley avec l'Avalanche en 2022.
Mais excuse, j'ai mélangé.
Il s'était blessé vers la fin du parcours de mémoire avec l'Avalanche.
Ouais.
Trouve-moi des excuses.
Ça me sonne une touche.
Ouais, 15 points en 16 matchs en 2022. Mais
je comprends que le prix est élevé, mais pour s'acheter, entre guillemets, une Coupe Stanley, c'est pas si cher payé parce que tu regardes la ligne de centre de cette équipe-là.
L'Avalanche.
C'est comme ça que tu bâtis
Nicolas Roy aussi, là.
Oui, ben c'est ça.
Exact, c'est ça.
On a été chercher Nicolas Roy qui peut jouer un peu partout, peut jouer à l'aile, peut jouer au centre. Tu rajoutes Nazem Kadri, tu as Brock Nelson qui rajeunit, on l'a vu. Nathan MacKinnon. Ouais. Bon, la question, c'est est-ce que l'Avalanche a tout ce qu'il faut? T'sais, on jouait moins bien récemment là, du côté de l'Avalanche. Est-ce que c'est la petite étincelle qu'on avait besoin pour nous relancer? Puis Kadri, je pense, dans un poste de deuxième centre, va peut-être... Parce qu'il n'y a pas une grosse saison à Calgary cette année, là, Kadri. Mais c'est peut-être de se retrouver dans un poste de deuxième centre exactement ce que ça lui prend à ce moment-ci de sa carrière. Là.
Écoute, ils ont... Oui, je pense qu'ils ont les outils. Ils ont le talent pour rêver à une conquête de la Coupe Stanley. Mais cette division-là... T'as aussi les Stars de Dallas et le Wild du Minnesota. Donc, au deuxième tour, techniquement, si ça reste comme en date d'aujourd'hui, l'Avalanche doit se battre avec les Stars ou le Wild. Même si t'ajoutes Nazem Kadri, même si t'ajoutes Nicolas Roy dans une série 4-7 contre les Stars de Dallas, ça se peut que l'Avalanche tombe au deuxième tour, mais ils ont Nathan MacKinnon, ils ont Cale Makar. J'aurais de la misère à parier contre l'Avalanche du Colorado en ce moment.
Oui, mais quand même, les Stars, on est sur une séquence de 10 victoires consécutives. Oh oui. On n'a même pas parlé du Wild du Minnesota qui a fait plusieurs acquisitions à la date limite dans les derniers jours. La séquence d'adversité que le Colorado vient de faire face, c'est peut-être la meilleure nouvelle pour eux. Pour éviter le scénario des Bruins d'il y a quelques années où on s'était incliné en première ronde, puis tout ça, c'est exactement ce que ça prenait. Nazem, dans le cas de Kadri, ça va être de se relancer. Tu regardes les Stars, on a été chercher, dans leur cas, on a été chercher Michael Bunting puis Tyler Myers. Fait que c'est des belles acquisitions. Dans le cas du Wild, c'est sûr que la grosse acquisition s'était faite avec Quinn Hughes il y a quelques semaines, mais pour le reste, c'est des ajouts à la Bobby Brink là, qu'on a échangé contre David Yerichek, Nick Foligno aussi, Jeff Petrie, mais bon. Mais comme on dit, ça va être la section de la mort, il y a quelqu'un qui ne va pas sortir. Encore là, l'équipe qui va sortir de cette section-là va être trop maganée face à des équipes de la Pacifique qui n'ont pas tant bougé. Les Golden Knights avaient bougé il y avait quelques semaines, les Oilers d'Edmonton... Regardez ce qu'ont fait les Oilers d'Edmonton. C'est quoi votre conclusion pour cette équipe-là pour ce qui est de la fin de la saison? Vous attendez à quoi des Oilers avec le club qu'on monte aujourd'hui? Est-ce qu'on va avoir convaincu Connor McDavid de signer un nouveau contrat l'année prochaine?
C'est une excellente question. Il n'y a pas eu, à moins que j'ai pas vu passer, là, il n'y a pas eu de grands coups de maître là, du côté d'Edmonton.
Résume le tout. Jason Dickinson et Colton Dack comptent un choix de première ronde, un autre. Ça vient de coûter un première ronde pour sortir Andrew Mangiapane qu'on avait mis sous contrat l'été dernier. On a été chercher Connor Murphy. Puis après ça, tu recules. Je vais vous dire
Connor
un peu.
Murphy, je déteste pas ça.
Je vais vous résumer la dernière année de Stan Bowman comme directeur général. Ce qu'on a acquis, Spencer Stachny, Tristan Jarry, Samuel Poulin, Connor Murphy, Jason Dickinson et Colton Dack. Ça, c'est nos ajouts. Ce qu'on a échangé, un choix de première ronde, deux choix de deuxième ronde, un choix de troisième ronde, Stuart Skinner, Brett Kulak et Mangiapane. Quand vous regardez les deux colonnes, la balance, il semble que ça ne penche pas du bon bord.
Non, mais la stratégie, ça va être encore « Let's go, Connor, on ouvre la porte. Let's go, Leon, on ouvre la porte. » Tu as le monstre à deux têtes qui essaie de faire ce qu'ils vont pouvoir faire. C'est une équipe qui manque de profondeur encore cette année. Là, même si tu ajoutes Jason Dickinson, même si tu ajoutes le frère de Kirby Dack, Colton Dack, Connor Murphy, c'est bien, mais tu sais, ils avaient Brett Kulak aussi, là. Brett Kulak, ouais. Là, il est rendu avec l'Avalanche du Colorado. Tristan Jarry ou Stuart Skinner aujourd'hui, pas convaincu que tu es en voiture avec Tristan Jarry.
C'est beaucoup d'échanges de 25 sous,
comme,
je trouve.
Ouais. Ben, comme on dit, c'est 4,30 sous pour une piastre. Les gens
c'est ma tante Roland qui roule ses 25 sous, qui se fait un 10$ avec ça. Des fois, ça peut servir en bigoudi dans les cheveux. mais Stan Bowman n'a pas beaucoup de cheveux, donc j'imagine moins que des bigoudis. Connor McDavid a signé une prolongation de contrat de 2 ans, donc c'est pas l'été prochain qu'il doit renégocier. Mais il va probablement arriver un moment où il va commencer à taper du pied le Connor.
Ouais, puis là, tu regardes le portrait, on a parlé, là, mais la section centrale, là, peu importe, même s'ils sont maganés, j'ai de la misère à voir les Oilers d'Edmonton passer à travers le représentant de la centrale dans cette
course au série-là.
Ouais. Je pense non, mais même si les Oilers sortent de la Pacifique.
Ah oui.
Peu importe qui
vont okay, je comprends.
Peu importe quelle équipe de la centrale,
j'ai beaucoup
de misère à voir les Oilers faire la même chose qu'ils ont fait lors des deux dernières années. La porte, selon moi, du côté d'Edmonton est en train de se refermer. Il ne reste plus beaucoup de pouces entre la porte et l'embouchure de la porte.
C'est peut-être,
ça commence à se refermer.
Ça pourrait être les Ducks aussi qui pourraient sortir de cette division pacifique.
C'est les discussions que je voulais avoir. Avant de parler des Ducks, on va en parler, mais quand vous regardez l'équipe des Golden Knights, on est allé chercher Mitch Marner avant le début de la saison, tout ça. Avez-vous soudainement beaucoup moins confiance à cette équipe-là par rapport à ce qu'on voyait en début de saison? Ou si Adam Hill peut finalement se replacer pour faire le travail, c'est un club qui peut rivaliser avec les trois monstres de la centrale?
Oui, mais des fois, trop de joueurs étoiles, ça ne donne pas l'équation espérée. Est-ce que c'est un géant qui dort cette saison puis on verra le réveil en série? c'est une autre possibilité. Jack Eichel, Mitch Marner, là, ils ont quand même de bons défenseurs avec l'ajout de Rasmus Anderson. Mais il y a des points d'interrogation devant le filet. Puis on dirait que la magie n'a jamais opéré cette saison pour les Golden Knights. Donc, je reste assez prudent avec les Golden Knights de Vegas pour cette saison.
Parce que j'espère que Mark Stone va être rétabli de sa blessure à temps pour les séries.
Ça, il y a des miracles de Vegas qui peuvent arriver, par contre.
Le système de santé au Nevada, là, c'est que c'est...
C'est ça, ça marche juste vers la mi-avril.
C'est ça, il fonctionne pas, mais quand il l'ouvre directement, trois jours avant les séries éliminatoires, une cure vraiment miraculeuse. Mais, tu sais, on parlait du prix, là. Nick Dowd, qui est un centre de 3 à 4e trio chez les Capitals, a coûté un choix de deuxième ronde, un choix de troisième ronde, puis un gardien, Jasper Wickman, qui a été repêché en cinquième ronde l'année dernière. Les prix étaient...
Les Golden Knights ont l'habitude de...
Oh, eux autres, des choix de
repêchage, c'est pas vraiment important pour cette équipe-là. Un deuxième, c'est presque une aubaine, là, parce qu'habituellement, c'est les choix de première ronde qui prennent la porte.
Mais Nick Dowd est un vétéran respecté qui va tenir un coup de main à l'infériorité numérique. Mais j'aime surtout les contre-coups du côté de Washington. Les gars étaient déçus de voir Nick Dowd partir. Puis quelques heures plus tard, boum, John Carlson, qui après 17 saisons avec les Capitals de Washington, s'est fait échanger en pleine nuit, apprend à son réveil le lendemain qu'il doit dire bye-bye à ses coéquipiers, à une grande portion de sa vie du côté de Washington. Si tu regardais les propos aujourd'hui de Tom Wilson, d'Alex Ovechkin, j'ai hâte de voir comment on va essayer de reformer le casse-tête du côté des Capitals. C'est une équipe qui est vieillissante aussi, les Caps.
J'ai une question pour décider de ne pas y aller, on s'entend, là. T'échanges John Carson, t'échanges Nick Dowd, c'est que la direction a décidé on y va pas cette année. Ça veut dire quoi pour Alex Ovechkin, qui est à sa dernière année de contrat? Est-ce qu'on a eu les discussions avec Ovechkin, puis on sent que ça va être la fin pour lui dans la Ligue nationale cette année, puis on a décidé qu'on échange ce qu'on peut cette année sans vendre la mèche?
Pour essayer de construire un petit peu le
commencer
futur.
La reconstruction, là.
Oui.
Je trouve quand même que c'est une équipe qui se maintient. On n'a pas fait une vente de feu. C'est sûr qu'avec Carson, ça va être plus difficile. Mais je pense pas que le message, c'est on lance la serviette dès aujourd'hui pour les séries éliminatoires. Mais je trouve ça quand même très intelligent de la part des Capitals de commencer à préparer une éventuelle reconstruction. C'est maintenant ou jamais là, de monnayer un Carson. Si Ovechkin ne revient pas l'an prochain, ben là, tu tombes dans une portion un peu moins rose, là, disons, de ton cycle. Là. Fait que je trouve que c'est une décision intelligente sans tout faire une vente de feu.
Je vais arguer que les Capitals, c'est le candidat parfait à la réinitialisation et non pas à la reconstruction.
C'est ce qu'on a fait il y a quelques années.
C'est ça. Ça avait super bien marché, donc on l'a déjà fait, mais tu regardes là, Alexis Protas, puis Luc Dubois, Dylan Strom, McMichael, Leonard. Chychrun est venu prendre la place. C'est lui qui a pris la place de Carson.
Il y a Rasmus Sandin également à la ligne bleue.
Exactement. On a beaucoup, beaucoup d'éléments qui font que, oui, tu aurais pu un vieillissant John Carson, oui, tu aurais pu Alex Ovechkin, mais il y a quelques jeunes qui peuvent pousser dans cette organisation-là. Deux années, pas de séries éliminatoires, puis t'es revenu au sommet. Surtout si on n'a même pas parlé de Logan Thompson, là, toujours bien un gardien qui a représenté le Canada aux Jeux Olympiques. Donc,
il était numéro 2.
Il y a beaucoup d'effets. À l'inverse, l'acquisition de John Carson pour les Mighty Ducks. Hey, c'est le même logo, là, au moins, là, ma défense. Là. Mais pour les Ducks, est-ce que c'est une des pièces vraiment intéressantes à ce casse-tête-là qui fait que les Ducks, on peut regarder le sommet de la Pacifique, comme tu disais, JF?
Bien, ils ont un beau mélange d'expérience et de jeunesse. T'sais, à la ligne bleue, tu as Jacob Trouba, tu as Radko Gudas, tu ajoutes John Carlson, tu mélanges ça avec Olin Zellweger, Mintyukov, défenseur, puis à l'attaque, Leo Carlson, Troy Terry, Cutter Gauthier, Lucas Dostal, qui est un bon gardien. Oui, les Ducks peuvent pas juste participer aux séries, mais peut-être passer le premier tour, espérer même passer le deuxième tour. Je trouve que c'est une équipe qui s'en va dans la bonne direction. Mm-hmm. Je peux faire une petite parenthèse. On parlait d'Alex Ovechkin tantôt. Là. Guillaume, on faisait un match contre les Capitals la semaine passée au Centre Bell. Tu sais, respect à Ovechkin. Là. C'est le plus grand marqueur de tous les temps, mais l'impact, le Alex Ovechkin qui changeait le cours d'un match, c'est quand même terminé. Ouais. Il y a une séquence en avantage numérique où Ovechkin, pendant 30 secondes, a ses grosses fesses contre la rampe. Puis s'il avait voulu jaser avec Renaud Lavoie, c'était un samedi, hein?
Ouais,
c'était samedi contre les Caps.
Il était juste à côté Renault. De Renault.
Il... Honnêtement, ils pouvaient regarder des reprises de jeu avec Renault. Ils bougeaient juste pas. Puis les Caps étaient incapables de rentrer la rondelle en territoire adverse pendant cet avantage numérique-là. Puis je dis à Guillaume, regarde Ovechkin, ça fait 10 secondes qu'il n'a pas bougé. Puis là, tu lui donnes un autre coup de coude, il doit faire 20 secondes qu'il n'a pas bougé. Tu sais, c'est ton gars dans ta ligue de bière.
Mais dans ce match-là,
il en marque deux quand même.
Marqué deux buts, ouais. Il a obtenu deux chances. Il était seul en avantage numérique de dans son bureau, puis personne ne surveillait du côté du Canadien. Fait que il a souvent fait ça, mais il trouve toujours le moyen de
tout ça pour dire qu'il faut que tu commences à préparer l'après.
Oui, c'est certain.
Ouais, c'est peut-être ça. C'est juste qu'on n'a pas eu... Parce que je disais récemment, il y a eu un texte, puis on disait il est revenu, il n'y a toujours pas de négociation, mm-hmm. Sa décision n'est pas prise.
Ben, je pense que ça va être à lui de décider. Là. Ils ont tellement de respect. C'est tellement un monument du côté de Washington.
Tu espères qu'il revient dans les bonnes conditions mentales, mm-hmm. Et non pas seulement pour en jouer une de plus. T'sais, souvenez-vous la dernière saison de Wayne Gretzky. Là. Oh, il était temps que ça se finisse. Là. Il n'avait pas vu, il n'avait pas levé de la fonte depuis assez récemment. Là. Ça se voyait assez. Je ne sais plus qui comptait ça. Je pense que c'est PJ Stock qui racontait cette histoire-là, qui est arrivé au camp et que. Et lui, il voulait se prouver, tu sais, Stock, il avait joué universitaire canadien, puis Gretzky était là, puis quelqu'un qui a dit, « Ouais, Wayne, t'as pas levé, tu sais, au camp d'entraînement, t'as pas levé les haltères, puis Wayne dit, ah, écris que j'en ai fait 12, puis il est parti avec son café, c'était tout, c'est ça. » Fait que, tu sais, c'est pas ça que tu veux, puis comme vous dites, mais... avec Ovechkin, les foufounes, ça bande pendant 20 secondes, 25 secondes, ça commence un petit peu à ressembler
à ça. C'est ça, mais ce serait quand même triste sans de tourner d'adieu. Là,
c'est vrai.
C'était la dernière fois qu'il était au Centre Bell. En tout cas, s'il décide de ne plus rejouer l'an prochain, ben on l'a vu pour une dernière fois à Montréal il y a une semaine. Fait que je trouverais ça triste dans un sens de pas lui permettre justement d'avoir la reconnaissance qu'il mérite là, à son dernier passage dans chaque aréna, mais ce sera à lui de prendre la décision. Ouais. Je pense que rendu à cet âge-là, des fois, l'été, ça doit un petit peu moins te tenter de te commencer à te préparer une autre saison de 82 matchs.
Tu sais, Ovechkin, quand on le regarde, il est de plus en plus rectangulaire. Hein? De moins en moins. Je sais pas, c'est... Le rectangle est plus large, là. Fait que c'est ça. Mais je reviens à Carson. J'adore l'acquisition de la part des Ducks parce que, tu sais, Jackson Lacombe, je pense, peut être plus utile en jouant beaucoup plus à 5 contre 5. Zellweger, Mintyukov n'ont pas montré qu'ils peuvent mener un jeu de puissance. Donc, tu prends Carson, tu le mets comme premier défenseur sur le jeu de puissance, moins de temps de jeu à 5 contre 5. C'est un ajout qui, à mon avis, va vraiment, vraiment aider cette équipe-là. C'était un des quelques trous de cette équipe-là, donc ils vont être vraiment surveillés. On parlait de joueurs qui continuent, malgré leur âge, puis qu'on n'a pas eu la dernière tournée. Je vous ai posé la question avant qu'on entre en onde, qu'on commence à enregistrer. Votre transaction préférée de la journée. Et toi, JF, tu nous as dit Corey Perry avec le Lightning. Est-ce que c'est parce que tu as le goût de voir le Lightning?
Corey Perry, c'est un billet pour une finale de la Coupe Stanley sans nécessairement la gagner. Non, mais
on va ressortir nos textes des dernières années sur la chance, une autre chance de gagner la Coupe Stanley.
C'est par rapport au coût aussi. Qu'est-ce que ça peut te procurer versus qu'est-ce que tu as payé? Pour Corey Perry, c'est un choix de deuxième tour. Là, si ma mémoire est bonne, j'ai pas les notes devant
moi. En 2028.
Puis, c'est un gars qui amène une culture qui est respectée de ses coéquipiers, qui a l'expérience des séries. Il a quand même une pas pire saison pour un gars de quoi?
2026.
Ouais, okay. 2026.
J'ai pris une mauvaise note.
Okay. Non, ça ne change pas grand-chose, 2026. Anyway, le Lightning...
Non, mais dans le sens, un choix de deuxième ronde pour Corey Perry, je suis quand même surpris, mais tu dis qu'il y a une
bonne saison. Non, mais écoute, il y a quoi? Il y a 28 points, 11 buts, 17 passes. Warren Fogle, qui a une moins bonne saison et qui n'est pas Corey Perry, a coûté pratiquement le même prix. Je trouve que le prix est raisonnable. L'an dernier, c'était 14 points pour le bon vieux Corey Perry avec les Oilers en série en 22 matchs. Pourquoi les Oilers n'ont pas signé? Ça, c'est une autre question aussi. Là. Perry a voulu un petit peu plus d'argent que le salaire minimum, ce qui était probablement la proposition des Oilers. Mais bon, là, je veux pas m'éloigner. Hey, j'aime l'ajout d'un vétéran, un groupe qui est déjà expérimenté.
Je vais répondre à ta question. ça fait combien de joueurs que les Oilers laissent partir puis ensuite doivent aller chercher le même joueur par la suite?
Remplacement.
Souvenez-vous avec les Blues, c'est Broberg et Holloway qu'on n'a pas signé. Puis après ça, en fin de saison, on cherchait un défenseur puis un deuxième centre ou un troisième centre. C'est exactement ça. Brett Kulak, c'est exactement ce qui vient de se passer. On l'a échangé puis là, on est allé chercher Connor Murphy. C'est le même. Fait que ça fait plusieurs erreurs de la part des Oilers qui font que on envoie nos choix partout parce qu'il faut patcher les trous qu'on a fait nous-mêmes dans le G-Proc. Fait que c'est vraiment ça, plutôt dans la saison. Fait que c'est vraiment ça. Mais bon, alors, le Lightning s'incline en finale de la Coupe Stanley, c'est ce que vous me dites cette année?
Les chances sont élevées.
Honnêtement.
Si la tendance se maintient, on a acquis le joueur porte-malheur. Donc, je pense, j'aime beaucoup aussi cette transaction-là. Là. C'est un bon vétéran. On avait vu l'impact qu'il avait eu justement quand il avait été de passage à Montréal. Là. Je pense que c'est un gars qui était très, très apprécié dans le vestiaire, puis qui est bon pour les jeunes, puis qui amène un certain élément de calme aussi.
Qui connaît la place.
Série,
aussi,
c'est très, très important.
Mm-hmm. Il arrive pas là.
Il va arriver là-bas. C'est le même entraîneur, John Cooper, c'est exactement ce que Corey Perry va pouvoir lui amener en série. Fait que, j'aime cette transaction-là. Moi, si j'avais à décider, j'en ai un peu parlé, là, mais j'ai quand même bien aimé le travail des Sabres de Buffalo à cette date limite-là. Je trouve qu'on est allé chercher de la profondeur à des bonnes positions. On a peut-être payé cher, mais si on réussit à faire une ronde ou deux cette année, peut-être aller un peu plus loin, mais ça aurait été un investissement assez rentable pour cette équipe-là qui se cherche depuis des années. Donc, j'aime bien le travail des Sabres de Buffalo. Je les identifierais comme une des équipes gagnantes là, de cette date limite-là.
Vous pensez quoi du travail de Mathieu Darche avec les Islanders? Les Islanders, présentement, qui sont à égalité avec les Penguins de Pittsburgh en deuxième place de la section métropolitaine. On veut faire les séries. On a les Blue Jackets qui sont à 3 points derrière. On se devait de bouger. Et la grosse acquisition, c'est Braden Schenn, qui a quand même coûté Jonathan Drouin un choix de première ronde, un choix de troisième ronde. Et Marcus Gildoff, je ne sais pas si... J'allais faire une joke de Gildor, honnêtement, je vais la garder pour moi. C'était comme ça ne levait pas dans ma tête. Fait qu'imaginez pour nos auditeurs. Mais vous pensez quoi du travail de Mathieu Darche pour préparer cette équipe-là puis donner à Patrick Roy une équipe capable d'aller loin?
Bien, c'est un coup de dé, celui de Braden Schenn, qui a 34 ans. Le choix de premier tour, c'est le choix de premier tour de l'Avalanche du Colorado qu'ils avaient
obtenu. Donc, un choix de deuxième ronde.
Oui, pratiquement. C'est de l'expérience, Braden Schenn. C'est un gars de 34 ans qui a déjà gagné. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier le marché de New York. Ça reste un marché compétitif. Les Rangers ne participeront pas aux séries. Les Devils ne participeront pas aux séries. Les Islanders, one night de foncer à la première saison de Mathieu Darche avec Patrick Roy.
Et la première bon saison gardien. De Mathieu Schaeffer.
Oui, et Mathieu Schaeffer aussi qui a changé complètement l'image de cette formation-là. Puis pour la petite anecdote, là, c'est quand même pas pire, du côté de Braden Schenn, les Blues étaient à San Jose. Les Blues jouent ce soir contre les Sharks et les Islanders, ou l'inverse, jouent également à San Jose. Bref, les deux équipes étaient exactement au même hôtel. Puis Braden Schenn disait sur les ondes de TSN que lui, jusqu'à date, le choc n'a pas été trop grand. Le reste dans le même hôtel. Il a juste changé de salle pour le dîner avec de nouveaux coéquipiers.
Il n'a même pas changé de chambre.
Non, c'est non, ça, tu peux garder la même chambre d'hôtel. C'est juste là, c'est pour la facture, je ne sais pas comment ils vont s'organiser. Il faut probablement que tu transfères du côté des Islanders.
En même temps, tu sauves sur le taxi, l'avion. Je pense que ça va bien se régler là, au niveau de la situation.
Non, mais tu sais, j'haïs pas de voir les Islanders essayer de s'améliorer. Puis il faut comprendre que le choix de premier tour, c'est pas un choix qui va être top 15 non plus. Sauf que Braden Schenn a ralenti. Faut être franc aussi. Puis il y a Jonathan Drouin qui passe dans cette transaction. Jonathan Drouin va poursuivre sa carrière avec les Blues de Saint-Louis. Il fallait libérer un salaire.
Schenn a ralenti, mais c'est quand même l'année dernière 50 points, 82 matchs. Peut-être que là, va être utilisé. Quoi qu'à Saint-Louis...
C'est une saison où c'était croche pour tout le monde à Saint-Louis.
Oui, c'est ça exactement. Donc, il est loin d'être ça. Parlons-en des Blues de Saint-Louis. Vous vous attendiez à quoi? On a tellement entendu de noms du côté de Saint-Louis. Colton Parayko a été échangé, puis finalement, il ne l'a pas été. Mais on avait parlé de Robert Thomas, de Jordan Kyrou. Avec la saison catastrophique qu'on a à Saint-Louis, est-ce qu'on reconstruisait? Qu'est-ce qu'on faisait? Jordan Binnington aurait pu changer d'adresse.
Beaucoup, beaucoup de bruit pour peu de choses. Hein?
Ouais,
mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est l'amour inconditionnel de Colton Perico envers la ville de Saint-Louis. Ça, c'est la première note très, très importante. Saint-Louis, c'est une ville qui marque plusieurs personnes. Une ville, ça une des merveilles du monde. Wayne l'avait dit. Wayne l'avait dit. Après Rome, il y avait pas loin Saint-Louis. Mais je pense que Doug Armstrong ne pouvait pas non plus passer le bulldozer au grand complet. Puis c'est rare que ça arrive à la date limite des transactions. Si tu veux repartir une reconstruction, c'est probablement plus à l'été. Puis Jim Montgomery, quand il est arrivé à Saint-Louis, c'est un contrat de 5 ans. Donc, je suis pas convaincu que Montgomery non plus s'attend à gérer une reconstruction demain matin, mais ce sera peut-être plus une réinitialisation en échangeant quelques pièces, en essayant de sauver puis de rester une équipe moindrement compétitive.
Ou on va faire sauter la banque cet été en essayant en faisant les transactions qu'on n'a pas été capable de faire en ce moment. Tu sais, il y a eu beaucoup de bruit avec le Canadien et les Blues. Ce que Kent Hughes a laissé entendre tantôt de dire on va peut-être se reparler à l'été, ben c'est.
Pour un joueur. On a dit un joueur significatif. Donc, visiblement.
Ce serait significatif. Mais tu sais, je regarde les choix de repêchage. Maintenant, les Blues ont 3 choix de première ronde cet été, 3 choix de troisième ronde. Donc, on peut s'avancer peut-être en deuxième. On amorce quand même. Une reconstruction du bon pied, puis on a encore de bons éléments à échanger si on décide d'y aller vraiment, de faire une vente de feu puis de reconstruire de zéro. Ben, t'as toujours les Parico, t'as encore Robert Thomas, Jordan Carew, donc c'est un bon départ pour cette équipe-là qui n'allait nulle part cette année.
Et tu peux aussi gagner la loterie, puis ça change complètement la dynamique de ton équipe, comme on a vu chez les Islanders. Une autre formation, on se demande, reconstruction, réinitialisation, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est à Toronto, c'est les Maple Leafs. Ça n'a pas été encore là. On a fait, je pense qu'on peut parler d'autres erreurs du côté des Maple Leafs. On a, les transactions. Oui, on a obtenu un bon retour pour Nicolas Roy, mais là, je l'ai pas devant moi, là, mais le retour pour Scott Lofton, puis tout ça, parle d'un choix de troisième ronde, selon ce que j'ai vu. Lofton, on avait payé un choix de première ronde pour l'avoir. Nos choix présentement là, à Toronto, puis c'est ça la grosse catastrophe du côté de Toronto, c'est qu'on possède pas nos choix de première ronde pour les 2 prochaines années. On a celui de 2026 qui a été échangé dans la transaction Brandon Carlo, donc les Bruins, et celui de 2027 qui a été échangé aux Flyers contre justement Lofton. Tu fais quoi là si t'es Toronto? Parce que.
Non, mais là, il faut que tu en viennes à la question. Est-ce que tu gagnes avec ce noyau-là? Est-ce que tu gagnes avec Austin Matthews, avec
la même
William Nylander
que...
et John Tavares? Peut-être la réponse.
Je pense que la réponse commence à être assez claire.
Puis là, ça risque.
Autant d'années.
Ça risque d'être l'été des grands changements aussi, probablement au niveau de la haute direction, probablement au niveau de l'entraîneur-chef. Toronto. Auront besoin de patience parce que 1967 va rester l'année référence pour encore quelques années.
Puis vraiment, là, ils sont tellement, mais tellement dans le trouble parce que peu importe ta décision, là, tu décides de faire une reconstruction, mais tu veux garder Austin Matthews parce qu'Austin Matthews, c'est un gros nom, il y a une clause de non-échange. William Nylander a une clause de non-échange. John Tavares a une clause de non-échange, puis c'est même non-mouvement, puis tout ça, en tout cas, peu importe. Austin Matthews a le gros bout du bâton pour s'en aller où il veut. Donc, tu n'auras probablement pas ce que tu veux avoir. Mais à l'inverse, si tu dis, écoute, Austin, on va pas faire une reconstruction, on va faire une réinitialisation. Cet été, on va aller chercher des choses. Puis, laisse-nous 2 ans, max 3 ans. Qu'est-ce qui se passe avec Austin Matthews dans 2 ans? Son contrat est fini. Il peut partir n'importe où pour à peu près rien, comme ce qui est arrivé avec Mitch Marner. Donc, tu peux même pas te permettre de faire une réinitialisation. Encore moins de reconstruction. Pis si tu le fais, il faut que tu échanges Matthews et possiblement Nylander le plus rapidement possible. Qu'est-ce que tu vas avoir pour ces deux-là? Je pense vraiment que du côté de Toronto, là, on se dirige. Tu sais, non seulement la porte elle s'est fermée, mais elle s'est fermée ses doigts. Puis là, on se dirige vers une reconstruction à la 2014-2015. Donc, allez voir la formation des Maple Leafs dans ces années-là. Ça allait mal. C'est une équipe qui est vieillissante, qui est lente, qui a fait des échanges, qui a échangé quelques joueurs aujourd'hui. devant le filet, on n'a jamais vraiment trouvé de solution. Je vois pas comment on peut s'en sortir du côté des Maple Leafs.
Non, puis tu sais, au niveau de la banque d'espoir aussi, c'est quand même très, très mince aussi. Il n'y a pas beaucoup, à part Easton Cowan. Moi, j'ai mes doutes par rapport à Cowan. Je ne sais pas s'il va devenir un joueur d'impact dans la Ligue nationale.
Ça devrait pas être ton espoir numéro un, tu comprends?
Exact. T'sais? Fait que je trouve que... Puis tu sais, la transaction, Brandon Carlo, Fraser Minton... Minton connaît une très, très bonne saison du côté de Boston. Puis,
rajoute le choix de première ronde en plus.
C'est beaucoup de décisions douteuses dans les dernières années. Puis là, on en arrive au point où ben, la porte est fermée. Puis je pense qu'il faut vraiment, du côté de Toronto, là, c'est pour les partisans qui attendent depuis longtemps, je pense qu'on peut essayer d'acheter quelques autres années de patience parce que ça va on va en avoir besoin. Là, on est loin d'avoir une équipe compétitive avec ce qui s'en vient dans la banque d'espoir et tout ça.
La seule possibilité chez les Maple Leafs, c'est que cette année, leur choix il est protégé s'il est dans le top 5. Puis l'année prochaine, leur choix il est protégé s'il est dans le top 10. Donc, faut pas juste un peu que tu plantes du nez. Faut que tu plantes du nez puis pas à peu près pour espérer garder ces choix-là. On est loin de ça. Donc, elle a vraiment...
Juste
là,
pour conclure, là, est-ce que Austin Matthews est encore un joueur franchise? Une grande, grande, grande étoile nationale?
Ça s'en va à la fin.
Étoile a quand même pâli depuis quelques saisons. Si Austin Matthews est réellement en santé... Il est décevant, disons, cette saison et l'an dernier.
S'il n'est pas en santé, est-ce que tu mets fin à sa saison tout de suite, là? Ou à peu près? Tu comprends-tu? Va te soigner, va te reposer.
Oui, tout à fait.
Ça serait le temps.
Tu sais, l'an dernier, les collègues de Toronto en série parlaient justement d'une opération au dos pour Austin Matthews. Tout le monde s'attendait à ce que ce soit cet été. Puis finalement, on a laissé aller cette situation-là en se disant qu'elle allait être correcte. Puis tu sais, cette année... pas souvent blessé, mais au point de vue du rendement sur la glace, ça laisse à désirer un peu. Donc, s'il y a une opération à faire, puis si c'est vraiment le cas, ben ce serait un excellent moment pour le faire en ce moment parce que c'est pas une équipe qui va se battre pour une place en série.
Non, exactement. Allez, les gars, on va conclure, mais je vous pose la dernière question. À la lumière de tout ça, est-ce que votre réalité, votre top 5, par exemple, pour la Coupe Stanley ou votre gagnant, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Ou encore là, on a pas mal la même liste que vous pensiez.
Pas mal la même liste. Les grosses équipes qui, tu sais, Kadri était déjà avec la Avalanche était déjà en bonne position.
C'est ça, exactement. C'est la plus grosse acquisition, selon toi, dans la journée pour les meilleures équipes.
Probablement.
Parfait. Les gars, merci d'avoir été là. On va se reparler sûrement la semaine prochaine. On va se faire un meeting là, parce que là, avec tout ça, les dates de balado. Mais normalement, ça devrait être mercredi. On va reprendre tout ça. Les Canadiens vont être de retour de leur voyage dans l'Ouest.
Côté d'Ottawa. Donc, Canadien sera à Ottawa mercredi.
Un spécial, la 417, la 50, peu importe. On se fait un spécial, tout ça, parler de ce duel. Ben écoute, si les Canadiens ne gagnent pas, puis Ottawa se met à gagner, ça va peut-être pour... on sera pas très loin d'une bataille
pas si
pour
être
en série. Ça va être bon. Merci.
On boucle la boucle. Le coussin est pas... Le coussin,
le coussin finalement, c'était seulement une petite débarbouillette sous les fesses qui donnait pas beaucoup d'absorption. Hey, Jeff, merci d'avoir été là. Guillaume, merci à toi aussi d'avoir été là ce vendredi.
Ça fait plaisir.
Attention à vous autres, chers auditeurs. Merci aussi beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.